Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Sciences Publiques. Comme toujours, vos réactions sont vivement attendues sur le site de Sciences Publiques au sujet de notre débat d'aujourd'hui. L'économie est-elle régie par les mathématiques ? Le 16 septembre 2015, un documentaire intitulé « L'Oracle », réalisé par Marcus Vetter et Karine Steinberger, est sorti en salle en France. Ce film raconte l'histoire étonnante de Martin Armstrong, fondateur de la société Princeton Economics International, qui est sorti de prison en 2011 après y avoir passé 11 ans. Selon Martin Armstrong lui-même, cette incarcération, dont l'essentiel s'est déroulé en préventive, est due à son refus de livrer à la justice américaine le secret de sa méthode de prévision économique. Cette méthode, fondée sur la constitution de bases de données très variées, analysées grâce à l'intelligence artificielle, lui aurait permis de prévoir les crises financières qui se sont produites en 1987, en 1989 au Japon, en 1998 en Russie et aussi avec les subprimes en 2007. Encore plus troublant, la méthode de Martin Armstrong prétend prévoir ces phénomènes au jour près. Lui-même se déclare surpris par une telle précision. Mais tel est le résultat fourni par son système d'intelligence artificielle. Ainsi, depuis 2011, a-t-il annoncé le début d'une grave crise des dettes souveraines pour le 1er octobre 2015. Cette date, c'était hier. Or, rien de marquant ne s'est produit sur les places financières de la planète ce jour-là. Tout au plus, le CAC 40 a-t-il abandonné 0,65% après une hausse la veille. Léger recul aussi à la bourse de New York, mais pas de krach apparent, donc le 1er octobre. Alors Martin Armstrong s'est-il trompé ? Cette question nous conduit aujourd'hui à nous interroger sur la capacité de la science, en particulier des mathématiques, à anticiper les phénomènes économiques. Pour cela, nous recevons dans Sciences Publiques, en direct depuis le studio 1 de la Maison de la Radio, Martin Armstrong, analyste financier, donc président de Princeton Economics International, qui sera avec nous par téléphone depuis Manchester, dans le Vermont, aux États-Unis. Ivar Ekland est mathématicien et économiste, spécialiste des fractales et du chaos. Il est l'auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation, dont le dernier, intitulé « Le syndrome de la grenouille, l'économie et le climat », publié aux éditions Odile Jacob, sortira en librairie le 14 octobre 2015. Et Paul Jorion, sociologue, spécialiste de la finance. Il a annoncé la crise des subprimes aux États-Unis dans un livre paru en 2007 intitulé « La crise du capitalisme américain ». Paul Jorion a travaillé pendant près de 20 ans dans une banque américaine et il vient de publier également chez Odile Jacob un livre intitulé « Penser tout haut, l'économie avec Keynes ». La traduction simultanée sera assurée par Xavier Combe. Xavier Combe que nous attendons d'une minute à l'autre et qui est actuellement un peu en retard à cause des embouteillages. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous communiquer vos commentaires, vos réflexions et témoignages sur le site de Sciences Publiques sur franceculture.fr. Paul Jorion, bonjour.
Bonjour.
Donc en attendant de pouvoir avoir le témoignage de Martin Armstrong, que nous aurons dès que Xavier Combe nous aura rejoint, peut-être vous pourriez nous raconter ce qui s'est passé, par exemple, lorsque vous avez vous-même prévu le krach financier de 2007. Comment en arrive-t-on à une telle prédiction ?
Oui, mais là, il s'agit de tout autre chose. Il ne s'agit pas simplement de number crunching, comme on dit, c'est-à-dire d'analyser des chiffres. Il y avait toute une configuration qui faisait qu'il y avait des canaux qui étaient inscrits à l'intérieur du système financier américain et qui allaient faire communiquer un événement de peu d'ampleur, finalement, qui est les prêts subprime, les prêts hypothécaires accordés à des gens dont les moyens financiers étaient relativement modestes. Commence à y avoir un effet démultiplicateur de cela à l'intérieur de l'ensemble du système capitaliste américain. Et là, c'est une représentation, je dirais, de type causal, c'est-à-dire créer un modèle, montrer des interconnexions à l'intérieur d'un système et montrer comment un petit effet peut avoir des conséquences parce que il peut avoir des effets stratégiques. Et dans l'occurrence, c'était essentiellement lié à une relation toute particulière entre la Chine et les États-Unis où chacun soutenait d'une certaine manière l'économie de l'autre. Les Américains achetant en masse des produits venant de Chine, la bulle dans le marché immobilier américain créant de la richesse supplémentaire, et les Chinois prenant cet argent, recevant cet argent en dollars et l'injectant dans l'économie américaine en achetant des bons du Trésor, faisant baisser les intérêts qui eux-mêmes encourageaient encore des gens à contracter des emprunts. Donc il y avait un mécanisme causal avec un effet qu'on appelle de rétroaction, et c'était une description fond, je dirais, mais de type, je dirais, bon, on peut appeler ça de la physique qualitative, si on veut. Ce n'était pas des chiffres véritablement, mais c'était des implications réciproques qui allaient conduire à une catastrophe.
Voilà, une analyse un peu logique des différents composants en présence à cette époque qui amenait à cette conclusion.
Oui, on a parlé en physique dans les années 80, on a parlé de physique qualitative, parce qu'on a un peu critiqué la physique aussi, parce que, par exemple, quand on représente la vapeur qui bout, il n'est pas inscrit à quel moment, dans les équations, il n'est pas inscrit à quel moment le couvercle va sauter. Et on s'est intéressé donc dans les années 80 à une physique qualitative, c'est-à-dire on allait tenir compte du couvercle, on allait tenir compte des valves qui permettaient à la vapeur de sortir et ainsi de suite, c'est-à-dire quelque chose de plus réaliste. Et c'est un petit peu ça qui m'avait inspiré à l'époque.
Alors, Yvan Éclat, bonjour.
Bonjour.
La question qui se pose vraiment aujourd'hui, et on va, j'espère, pouvoir avoir le témoignage de Martin Armstrong sur ce sujet, c'est quel rôle peuvent jouer les mathématiques dans ce type de prévision? Est-ce que on est plus dans le qualitatif, comme vient de le dire Paul Jorion, et où il faut tenir compte de beaucoup de paramètres, mais sans forcément entrer dans des équations? Comment vous voyez cette question de la prévision économique à l'aide de l'outil mathématique?
Je songe beaucoup à l'analogie de la météo, si vous voulez. En météorologie, vous pouvez avoir des choses assez simples. Par exemple, vous voyez des cumulus. Ce sont des cumulus de beau temps. Vous pensez qu'il va faire beau temps pendant 2-3 jours. Et puis, vous avez des modèles simples pour ça. Les mathématiques le justifient, etc. Ça, c'est une première approche. Et c'est une approche extrêmement utile. Bien. Maintenant, si vous vous posez la question de savoir est-ce qu'il va pleuvoir à Paris dans un an à cette heure-ci, c'est une question complètement différente. Vous pouvez construire de gros modèles mathématiques, mais ils ne domineront pas la complexité. C'est-à-dire, à très longue échéance, on connaît les équations, on connaît la physique, mais il y a une sorte de complexité inhérente au problème, une sorte de chaos. Les petites causes peuvent avoir de grands effets. On ne peut attribuer à ces phénomènes-là que des probabilités. Donc, a fortiori, serait-il impossible de dire si, oui ou non, il pleuvra à Paris dans un an. Ce n'est pas possible. Alors, déjà en physique, les prévisions à long terme ne sont pas possibles, alors qu'on connaît très bien les équations. En économie, c'est beaucoup plus compliqué, parce que, à la différence de la physique, où ce qui se passe demain dépend de ce qui se passe aujourd'hui, en économie, ce qui se passera demain dépend non seulement de ce qui se passe aujourd'hui, mais de ce que les gens pensent qu'il se passera demain. Vous voyez, il y a l'anticipation. Si tout le monde pense que l'économie va s'effondrer demain matin, si par exemple tout le monde avait cru que la prédiction de M. Armstrong que l'économie allait s'effondrer hier, si tout le monde avait cru ça, alors l'économie se serait effondrée parce que les gens auraient retiré leur argent, ils auraient fait des choses. Donc, là, il y a un degré de complication supplémentaire, et je ne pense pas du tout que des prédictions exactes soient possibles en économie. Mais je pense que des modèles mathématiques peuvent dire des choses simples et relativement utiles, et utiles de même. Le cumulus de beau temps, il ne va pas pleuvoir dans l'immédiat. On peut dire des choses sur, sur les taux d'intérêt, sur les dettes publiques, des choses comme ça. On peut dire des choses générales et utiles qui vont guider les politiques. Mais savoir exactement ce qui se passera, on ne peut pas.
Alors justement, Martin Armstrong va pouvoir nous donner son point de vue, parce que Xavier Combes, notre traducteur, est arrivé. Et donc je vais pouvoir lui demander d'abord de lui dire bonjour. Martin Armstrong, bonjour.
Well, hello.
Hello.
Hello, can you hear us?
Yes.
Très bien. Donc la première question, c'est justement concernant votre prédiction de ce qui devait se passer selon vous le 1er octobre. Vous avez fait cette prévision il y a déjà plusieurs années. Et nous sommes le 2 octobre et la question est que s'est-il passé? Comment analysez-vous le fait que justement il ne s'est pas passé grand-chose hier?
Yes, this particular turn has got nothing to do with any individual market. This is the downturn in the economy, and we will see from this point forward the change in trend.
Nous allons assister à un retournement de tendance.
The U.S. economy will begin to start turning down.
Il va y avoir une baisse de l'économie aux États-Unis.
And we will see the situation in Europe with the economy also getting much worse.
Et il en ira de même avec l'économie européenne, qui sera orientée à la baisse.
This is the beginning of a trend. It's not the end.
Nous n'en sommes qu'au début de cette tendance.
Mais aujourd'hui, aucun signe avant-coureur de cette tendance n'est perceptible.
Et donc il faudra quand même attendre, ça s'inscrit dans le moyen terme, oui, tout à fait. Il faut savoir que ça s'inscrit dans le moyen terme. Un an, deux ans, on verra vraiment des signaux beaucoup plus forts que ce n'est le cas actuellement.
Donc est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui, il n'y a aucun signe avant-coureur qui puisse donner un peu de consistance à la prédiction que vous avez faite sur le 1er octobre ?
Only political. I mean, you have.
Ah, si, il y a des signes politiques.
On the turning point, Russia starts bombing now in Syria.
Bon, évidemment, on assiste au bombardement de la Russie en Syrie.
This is a political change in trend.
On assiste à des changements politiques qui marquent quand même cette tendance.
Très bien. On va revenir. Something
happened in 1985. It was the Plaza Accord. And what you saw, it takes 2 years, and then all of a sudden.
Comme on peut le voir lorsqu'il y a des changements politiques, il faut attendre un certain nombre de mois, voire d'années, un ou deux ans, pour assister à un retournement de tendance au niveau économique.
Très bien, on va évidemment.
Alors ici, évidemment, les retournements de tendance, on y assiste au niveau gouvernemental, au niveau des décisions politiques, alors qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des retournements de marché, comme ça a été le cas lors d'événements précédents.
Très bien. Martin Armstrong, excusez-moi, on va revenir sur le mécanisme qui vous a permis qui vous permet de faire ce genre de prévision. Je voudrais quand même avoir la réaction de Paul Jorion, par exemple, à ce que vous venez de dire, et également d'Ivar Ekland. Paul Jorion.
Oui, maintenant, M. Armstrong nous dit, oui, il y a une logique interne au marché, mais il y a aussi des événements politiques. Et s'il a une représentation telle qu'il peut nous dire qu'on a affaire à un système déterministe pour l'ensemble, c'est-à-dire non seulement les marchés financiers, mais aussi qu'on peut déterminer de manière déterministe ce que M. Poutine va dire demain et ce que M. Obama va répondre, évidemment, on peut imaginer une très très grande machine qui fonctionnerait de cette manière-là. On va revenir quand même un petit peu au sujet qui était sa prévision aujourd'hui, éventuellement que le système s'effondrerait. Là, c'était lié, je dirais, à une prévision tout à fait spécifique à l'intérieur même des marchés financiers. Bon, ce que moi j'ai pu observer dans mon expérience, et M. Ekland me dira si mon interprétation est correcte, c'est que quand les prix évoluent à l'intérieur d'un marché selon une logique purement interne, c'est-à-dire que l'information dont disposent les gens qui vont acheter et vendre, c'est essentiellement la courbe, l'ensemble des prix, c'est ce qu'on appelle un système discret en mathématiques, c'est-à-dire que tous les jours, il y a des prix qui sont créés, et il y a parfois ça saute d'un certain endroit, il y a un autre, ce qu'on appelle des gaps. Lorsqu'il y a une logique, je dirais, purement interne des marchés, on peut voir apparaître des phénomènes qui sont justement de l'ordre d'objets mathématiques, comme des fractales, des choses de cet ordre-là. Mais dès qu'il y a intervention, je dirais, d'autres éléments qui viennent d'autres systèmes qui peuvent être déterministes eux-mêmes, mais qui viennent interférer avec cette logique-là, alors ça saute. Dans ma propre expérience, j'avais un système, on était en 1990, j'avais un système, j'avais modélisé le comportement d'un certain marché de futures, c'est-à-dire de produits à terme, sur un modèle physique qu'on appelle modèle prédateur-proie, et en considérant que les acheteurs ou les vendeurs sont des proies ou des prédateurs. Et ce système avait un très grand pouvoir de prévision. C'est-à-dire que ça marchait bien, je dirais, d'un jour sur l'autre. Et puis un jour, je m'en souviens toujours, Monsieur Shevardnadze a démissionné en tant que, je crois que c'était Premier ministre en URSS. Et tout est passé à autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, on est reparti, je dirais, à une autre logique qui redevenait un petit peu prévisible à l'intérieur même de son propre système. Mais ça avait fait sauter tous les systèmes qui auraient pu être prévus de cette manière-là. Il y a, quand un système, je dirais, a une logique purement intrinsèque, par opposition à extrinsèque, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs extérieurs, il y a une certaine prédictibilité, à mon avis, qui devient lisible en surface, mais sinon, non.
On revient un petit peu à l'exemple que vous donniez de la météo à court terme, avec des phénomènes effectivement plus maîtrisables, et que dès qu'un autre gros phénomène intervient, finalement, ça bouscule tout. Comment vous analysez ce que vient de dire Paul Jorion.
D'abord, je vais réagir sur ce qu'a dit M.
Oui,
Armstrong.
Évidemment.
Bon, je n'ai rien, dans ce qu'il a dit, je n'ai rien entendu que quelqu'un qu'on prend dans la rue n'ait pu dire. Je veux dire que. On bombarde la Syrie en ce moment, que la situation politique soit mauvaise, que plus personne ne maîtrise rien et que les marchés, et que ça va retentir sur les marchés. Je n'ai pas besoin de modèles mathématiques, encore moins de bases de données pour dire ça. Hein. Vous pouvez le dire. Et bon, ça. Donc là, il n'y a rien véritablement de particulier qui relève des maths. Bon, parfait. Maintenant, sur ce que dit Paul Jorion, oui, ça va être tout à fait dans ce sens-là. C'est-à-dire que, en termes de prédictibilité, eh bien, on peut peut-être ce qu'on peut faire, effectivement, c'est dire ce qui se passe, pour ce qui risque de se passer si rien ne change. C'est-à-dire, bien, et c'est un peu dans la nature de la chose. Hein. Il y a cet élément d'incertain qu'on ne peut pas éliminer, ne serait-ce parce que ce sont des affaires humaines. Si nous savions exactement ce qui se passe demain, eh bien, si nous savions tous ce qui se passe demain, eh bien, nous irions tous acheter des actions IBM, je ne sais pas, parce que nous savons qu'elles vont monter. Et c'est pas du tout comme ça que ça marche. Hein, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Il faut toujours tenir compte du fait que ce que les gens savent sur demain réagit sur ce qu'ils font aujourd'hui. Donc, bon.
Non, c'est le système qui perturbe d'ailleurs les prévisions de bouchons sur la route, parce que si suffisamment de gens tiennent compte des prévisions, le bouchon se déplace et n'a Absolument. Pas lieu à l'endroit, au moment où Bien il sûr. A été annoncé.
Je me rappelle, si vous voulez, quand j'étais beaucoup plus jeune, dans les années 70, c'était la mode des très gros modèles macroéconomiques. Et on vous annonçait qu'au prochain semestre, la croissance allait être de ceci et de cela. Et puis, les gens y ont renoncé. Les gens y ont renoncé parce que ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas parce que les gens adaptaient leur comportement en fonction de ça.
Alors effectivement, comme vous l'avez dit, comme Paul Jorion l'a dit, je crois, c'est si tout le monde avait cru à la prévision de Martin Armstrong, la crise se serait produite et il aurait eu raison, en fait, c'est ça.
Oui, il y a un exemple très célèbre en économie. Ce n'est pas la première fois. Monsieur Armstrong parle de cycle. Ce n'est pas la première fois. C'est une vieille idée. Je me rappelle que quand j'étais étudiant, on parlait de ce qu'on appelle les taches solaires. Pendant longtemps, il y a eu l'idée qu'il y avait des cycles de 11 ans qui étaient liés aux taches solaires, ce qui est plus que ce que le dit M. Armstrong, parce qu'on avait une cause. Tous les 11 ans, les taches solaires sont plus importantes, donc le rayonnement lumineux du soleil diminue, donc l'agriculture marche moins bien, donc ça influe sur l'économie, donc on avait ce cycle de 11 ans. Mais le cycle de 11 ans, il a disparu, mais si tout le monde avait cru au cycle de 11 ans, eh bien, il y aurait eu effectivement un cycle de 11 ans.
Alors, justement, pour ce qui est des cycles, Martin Armstrong, lui, parle d'un cycle de 8,7 ans qui serait à l'œuvre et qui serait le résultat, justement. Alors là, le problème, c'est que il ne peut pas nous l'expliquer parce que la ligne, pour l'instant, est coupée avec les États-Unis. Mais pour lui, si vous voulez, ce cycle résulte de tous les phénomènes dont vous avez parlé qui sont perturbateurs, aussi bien l'histoire que le cours des matières premières, que l'agriculture, que la météo, enfin plein de facteurs qui sont beaucoup moins, qui sont plus larges que la simple analyse financière des choses. Et Martin Armstrong prétend avoir intégré l'ensemble de ces données dans ses bases de données qu'il explique être gigantesques et qui lui permettent de découvrir des cycles à l'intérieur de cette complexité des événements dont vous avez tous les deux parlé et qui fait que la prévision est difficile. Donc, une des questions, c'est est-ce qu'il existe, de votre point de vue, des cycles et surtout des modèles, des espèces de schémas qui pourraient surgir de la complexité de ces phénomènes, Paul Jorion?
Il y a plusieurs choses. On vient de mettre l'accent sur l'apprentissage. C'est vrai que les êtres humains ne restent pas assis bouche bée quand ils voient quelque chose qui se passe, ils réagissent. Et on nous dit, après la pluie, le beau temps, on est à la phase basse du cycle, donc on va remonter dans la phase haute du cycle. Ce qui se passe dans la réalité, quand on regarde des crises, parce qu'il y a des crises, effectivement, qui peuvent apparaître comme étant cycliques, quand on regarde comment on sort de ces crises, historiquement, on s'aperçoit qu'on n'en sort pas toujours de la même manière. Ce qu'il y a, c'est qu'on mobilise toutes les énergies. Et la manière dont on est sorti de la crise de 1900 1929 et la manière dont on est sorti de la crise de 2008, ça ne se compare pas. Pourquoi ? Parce qu'on apprend, nous sommes des êtres humains qui apprennent. Alors, d'une certaine manière, oui, il y a des cycles, simplement parce qu'on essaye de sortir de la mise dans laquelle on s'est mis. Il y a aussi, je dirais, la faiblesse de certains modèles mathématiques. Il y a des gens qui font des modèles mathématiques sans maîtriser l'outil. Il y a des études qui ont été faites récemment, qui, par exemple, sur les études en pharmacologie, les études statistiques sur la manière dont on découvre des relations causales entre des molécules et des maladies particulières. Et la personne qui a fait l'analyse, ça a paru, je crois, c'était dans Science ou dans Nature, a montré que dans la moitié de ces modèles étaient mal conçus. Ceux qui utilisaient le modèle ne comprenaient pas la logique mathématique de ces modèles. Donc, il y a aussi beaucoup d'artefacts. Moi, je regardais, on a parlé des cycles de Kondratiev, qui était donc un marxiste qui lisait des cycles dans l'économie. Quand on regardait ça un tout petit peu de près, il y a beaucoup d'artefacts, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas véritablement des cycles, mais il y a des conditions. C'est un petit peu comme dans les religions primitives, on parlait de l'anthropologue Evans Pritchard. On trouve des circonstances atténuantes quand on ne trouve pas le cycle. Oui, mais il est masqué. Oui, il n'a pas eu lieu exactement de la manière dont on imaginait, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a une certaine croyance dans le pouvoir du modèle mathématique qui va aller au-delà dans l'interprétation par rapport à ce que le modèle permet en réalité de faire.
France Culture, Sciences Publiques, Michel Albert-Gonti.
L'économie est-elle régie par les mathématiques? C'est le thème de notre débat aujourd'hui avec nos invités. Martin Armstrong, analyste financier, président de Princeton Economics International. Ivar Ekland, mathématicien économiste, spécialiste des fractales et du chaos. Et Paul Jeanrion, sociologue, spécialiste de la finance. Nous avons, je crois, de nouveau la liaison avec Martin Armstrong. Et je voudrais lui demander de nous expliquer avant la réaction d'Ivar Ekland, sur quoi est basé son système de prédiction? On a parlé d'intelligence artificielle, de base de données. Est-ce qu'il peut nous expliquer lui-même le mécanisme de fonctionnement de ce système?
Mon
système repose sur des flux de capitaux.
We have constructed the world's largest database.
Nous avons mis en place la plus grande base de données au monde.
And of everything, commodities.
Et nous prenons les biens de première
consommation, spending,
les produits céréaliers, les produits agricoles, les produits et les dépenses des gouvernements. Même la Bank of China utilise notre analyse de flux de capitaux aujourd'hui. Et dans cette base de données, nous intégrons tout. Il suffit de suivre l'argent à la trace pour déceler les tendances économiques. Les cycles microéconomiques ont été reconnus comme en tant que tels. Marx, quant à lui, a tenté d'éliminer ces cycles. Keynes, lui, dit que nous pouvons les maîtriser, ces cycles des affaires. Paul Volcker a publié un livre en 1979 et il traite de la redécouverte du cycle des affaires.
Arthur Burns,
lorsqu'il y a eu le taux de change flottant en 1971, dit que c'est toujours le cycle des affaires qui prévaut. À Bretton Woods, on a essayé d'étalonner une devise à $35 en fonction de l'or, mais malheureusement, ce n'était pas soutenable. Il en va de même pour la question du franc suisse. J'ai rencontré ces gens-là en 2012 pour leur dire que leur approche était vouée à l'échec.
Martin Armstrong, excusez-moi de vous interrompre. On va avoir la réaction de Paul Jeanrion et Ivar Ekland. Peut-être Ivar Ekland en premier. Est-ce que cette méthode de multiplication des données peut faire apparaître des cycles et effectivement être capable, de par la mise en évidence de ces cycles, d'aboutir à des prévisions?
Bon, écoutez, la méthode, il ne nous l'a pas donnée. Hein, je veux dire, quand on fait de la science, c'est quand on fait de la science, il faudrait que je voie le modèle, il faudrait que je voie ce qu'il a là-dedans, etc. C'est un peu comme le logiciel. Hein. On vous vend un logiciel, le logiciel libre, eh bien, parce qu'on peut regarder ce qu'il y a dedans. Quand un vendeur vous vend un logiciel privé, c'est une boîte noire. Donc, on a une boîte noire et on nous dit qu'il y a quelque chose dedans et on n'a aucun moyen de vérifier. Donc,
et dans le principe de cette accumulation des données, est-ce que ça vous paraît...
Sur l'accumulation des données, j'ai une... Alors, d'abord, en soit l'accumulation des données pose des problèmes. Par exemple, est-ce que c'est stable? Si on met d'autres données, est-ce que ça change les résultats? Si on prend les mêmes données sur des périodes plus courtes ou plus restreintes, est-ce que ça change les résultats? Donc, il y a des problèmes techniques de cet ordre. Et enfin, c'est quand même un fait notoire que, et ça, je l'ai dit toujours à mes étudiants, je me souviens, si vous voulez, un jour, un étudiant était venu me trouver et il m'avait proposé un sujet de thèse. Alors, quel était son sujet de thèse? Il me dit, je vais accumuler des données sur les marchés et après, les chiffres parleront par eux-mêmes. Mais
oui,
les chiffres
un
ne
peu
parlent
de,
pas par eux-mêmes.
Il y a un
eux-mêmes.
Peu de ça. Enfin,
ben
sauf,
oui, mais
sauf,
un chiffre ne sauf parle
que...
pas.
L'intelligence artificielle intervienne et justement soit capable de faire parler ces chiffres, puisqu'une fois qu'on les a accumulés, tout reste à faire en termes d'interprétation et d'aboutissement.
Écoutez,
à une prédiction.
Les chiffres ne parlent pas par eux-mêmes. Il faut toujours qu'il y ait une intelligence derrière qui vous dise ce qu'on cherche. Je peux vous donner un exemple, hein, tout à fait au début des statistiques. Tout à fait au début, en Suisse, il y a quelqu'un qui avait voulu identifier la profession la plus dangereuse. Alors, ce qu'il avait fait, c'était qu'à l'époque, en Suisse, on enregistrait la profession des gens quand ils mouraient. Et pour lui, la profession la plus dangereuse, c'était donc celle où on mourait le plus jeune. Vous savez ce qu'il a trouvé, quelle était la profession la plus dangereuse en Suisse? Donc, les chiffres ont parlé. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les chiffres? Eh bien, la profession la plus dangereuse, c'était d'être étudiant. Parce que c'était étudiant, c'était ceux qui mouraient le plus jeune. Ça voulait dire quoi, ça? Eh bien, ça voulait simplement dire que quand vous mourrez à partir d'un certain âge, vous n'êtes plus étudiant. Donc, je veux dire, les chiffres ne parlent pas. Il faut toujours comprendre. Alors, quand on me dit les chiffres parlent, ça, je n'y crois pas du tout. Et une dernière chose technique...
Est-ce que l'intelligence artificielle peut espérer un jour les faire parler?
Les faire parler.
Ou est-ce que par définition, c'est impossible?
Les chiffres sont des chiffres. Alors, vous pouvez dire que certains chiffres sont reliés, mais non, je ne vois pas du tout.
Paul Jorion.
Oui, ça rappelle la fameuse anecdote de la personne qui avait transmis à la Royal Academy à Londres un livre qui était constitué de toutes les observations qu'il avait faites en espérant que les savants de la Royal Academy allaient faire émerger ce qui pouvait en émerger. Non, c'est vrai qu'effectivement, pour qu'un modèle produise quelque chose, il faut qu'il y ait une représentation causale des effets qui sont à l'intérieur de cela. Dans une chronique que j'ai fait dans Le Monde, je crois que c'était hier ou avant-hier, j'ai attiré l'attention sur le fait que Mme Janet Yellen, à la tête de la Federal Reserve, avait utilisé une corrélation dans laquelle elle inversait l'interprétation qu'elle faisait de comment ça fonctionnait dans l'exposé qu'elle avait fait à la Federal Reserve pour l'exposé ex cathedra. Elle avait défini A comme étant la cause et B comme étant l'effet, et quand elle a parlé aux journalistes ensuite, elle ne s'est pas rendu compte qu'elle avait inversé ça. Bon, c'est le genre de choses qu'il faudrait pas faire. Non, ce qu'il y a en intelligence artificielle, c'est qu'il y a une approche en intelligence artificielle qui est une approche de type boîte noire, de black box. C'est ce qu'on appelle les réseaux neuronaux. Et les réseaux neuronaux, c'est un... On introduit... En fait, c'est un modèle statistique complexe, mais d'une complexité telle qu'il nous échappe quant à l'interprétation. On introduit un certain nombre d'objets qu'on appelle des neurones, parce que ça ressemble vaguement à des neurones, mais c'est simplement des effets ce sont des petites machines qui vont avoir des effets non linéaires. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir des effets de seuil. On va leur donner une information, et quand ils arriveront à tel chiffre, ils vont passer d'un état, disons, blanc à noir, ou faire passer une information à d'autres, et ainsi de suite. Et dès qu'on ajoute un certain nombre de couches dans ces réseaux neuronaux, il devient pour nous impossible de savoir exactement ce qui se passe. Mais ces systèmes, on peut leur faire apprendre des choses. C'est-à-dire qu'on peut leur donner des données en entrée, leur donner des données qu'on a observées en sortie, et ces petites machines vont commencer à réagir comme il faudrait. Comment fait-on pour ça? Eh bien, on les corrige quand ils font des erreurs. il y a un système de, je dirais, de pondération intérieure qui fait qu'on va corriger leur comportement. Et là, effectivement, en intelligence artificielle, dans ce type d'approche qu'on appelle distributed, il y a un effet, il y a des choses qui se passent dont nous perdons un petit peu la maîtrise. Et c'est pas une question simplement de vitesse, c'est simplement que la complexité dépasse celle de notre entendement.
Yvon Eklund.
Oui, il y a quelque chose que je voulais rajouter aussi à propos des cycles. Bien, bon, on parle toujours de cycle en économie. Les mots sont trompeurs. Quand on parle, ce qui se passe en économie, c'est qu'il y a des fluctuations. Ça monte, ça descend. Quand on parle de cycle, on évoque l'idée d'une régularité. Ce n'est pas du tout ça, hein. C'est-à-dire, il y a des fluctuations. Et je voudrais dire que...
Il y a quand même des cracks espace, alors peut-être pas réguliers.
Régulier. Je dis qu'il y a pas, il y a des... L'économie fluctue. Personne ne nie ça. Qu'il y ait des régularités, ça, c'est beaucoup plus contestable. Et je peux vous dire, j'avais fait un petit livre sur le chaos il y a bien des années, où j'avais sorti une série de nombres complètement aléatoires. Eh bien, au début, ça paraît cyclique, ensuite les cycles s'allongent et ensuite on tombe dans le chaos. Rien ne ressemble plus à quelque chose de cyclique que quelque chose d'aléatoire. Hein. Vous partez d'un cycle, oui, il y a un cycle, puis le cycle, au lieu d'être de 3 ans, il passe à 6 ans, puis finalement, on ne comprend plus rien. Donc, qu'il y ait des fluctuations, certainement. Qu'il y ait des cycles réguliers, pas du tout.
Alors, on a beaucoup de difficulté avec Martin Armstrong. Est-ce que la liaison fonctionne en ce moment ou pas? Non, elle ne fonctionne plus. Donc c'est assez difficile d'avoir son opinion. Lui, apparemment, c'est ce qu'il nous a dit la dernière fois qu'il est intervenu, croit à l'existence de ces cycles et base beaucoup de ses calculs sur cette croyance. Et ensuite, même obtient des choses troublantes comme l'apparition du chiffre pi au milieu de ses calculs comme étant un élément un peu central et quasi, enfin, qui peut apparaître pour certains observateurs comme un peu magique. Donc la question, par exemple, est de savoir si c'est constitutif de l'économie, et je crois que vous avez quand même essayé de nous le dire, que l'aspect humain, en gros, était le facteur qui empêchait toute prévision, dans la mesure où même la prévision va influencer le facteur humain lui-même, et donc forcément truquer ou biaiser la prévision. Est-ce que ça, c'est absolument impossible, de votre point de vue, à éliminer, quels que soient les moyens que l'on emploie? C'est ça, bon, la question de fond.
Une première chose, c'est que même s'il n'y a pas de facteur humain, comme dans le cas de la météorologie, les prévisions exactes à long terme ne sont pas possibles. On peut dire des choses. On peut parler de « il risque de se passer telle chose à long terme » et à ce moment-là, les mathématiques peuvent servir.
On a des idées sur le climat, mais pas sur la météo, en fait. C'est là que... C'est-à-dire des valeurs plus générales que...
Oui, on peut mettre des probabilités, on peut se faire des idées assez précises, on peut se faire des idées. Bon, alors maintenant, en économie, l'économie est beaucoup plus difficile parce que... sur le long terme, parce que comme vous le dites, il y a le facteur humain et de petites choses peuvent avoir de grands effets. Je ne sais pas si ce qu'à Dieu ne plaise, si un grand chef d'État meurt demain, les marchés vont craquer, ça c'est assez clair. Alors, c'est...
Ils vont craquer plus ou moins, c'est ça en
Ils
fait.
Ils vont craquer plus ou moins. Donc, si vous voulez, je pense que la prédiction exacte n'est pas possible, mais, notamment à cause de ça. Mais je pense que ça n'empêche pas de réfléchir. Par exemple, on sait que ça n'empêche pas de réfléchir et de prendre des précautions. On sait, par exemple, ce qui risque de se passer. On sait la situation est mauvaise en ce moment, on risque des craques. Est-ce qu'on fait de la régulation bancaire? Je veux dire, ne pas pouvoir mettre de probabilité ou dire ce qui peut se passer n'empêche pas de voir le risque et de prendre des précautions. Ça, je trouve qu'on ne le fait pas assez. Et nous avons en économie et des modèles qui font aussi intervenir des mathématiques et qui font intervenir le comportement des gens. Hein. On sait, par exemple, qu'il y a ce qu'on appelle le hasard moral ou le... Disons, on sait qu'il y a des modèles qui font intervenir le fait que les gens peuvent mentir et peuvent tricher. Donc,
ça peut s'intégrer quand même.
Mais pas dans un modèle de prévision, d'accord, dans un modèle de précaution.
Alors, il faut revenir quand même en deux mots au fond de la prédiction de Martin Armstrong et de des motifs qui l'ont amené à cette prévision. Pour lui, c'est une crise des dettes souveraines qui se prépare. Il pense que la confiance va se retourner et que le 1er octobre est le début de ce retournement de confiance, même si aucun effet réel et concret ne s'est produit, et que ensuite donc les États vont avoir beaucoup de mal à la fois emprunter. Peut-être que la situation sera aggravée par l'augmentation des taux d'intérêt, et ça peut-être, pauvre Jorion va pouvoir nous l'expliquer, l'augmentation des taux d'intérêt américains qui pourrait avoir un impact sur l'ensemble des dettes souveraines de la planète. Et donc, il prévoit quelque chose que lui considère comme inéluctable à cause d'un enchaînement mécanique de faits et d'une situation actuelle. Paul Jorion.
Mais là, il y a deux ordres de choses. Bon, il n'est plus là pour commenter ce que nous avons à dire.
Non, la liaison, malheureusement, il est coupé.
Oui. Voilà. Mais il y a deux ordres de choses. D'abord, il nous dit qu'il y a un système qui est une boîte noire, au sens où on ne peut pas voir exactement ce qui s'y passe, mais c'est un modèle causal qui va nous expliquer les choses. Et puis, d'autre part, il y a des choses qu'on peut vous dire parce qu'on a lu les Échos, parce qu'on a lu le Wall Street Journal, le Financial Times. Ce qu'il nous a dit aujourd'hui, c'est ce qu'on peut lire dans le journal. Donc, voilà. Donc, il n'y a rien de particulièrement spécial là-dedans. Ce qui nous montre, bon, c'est son métier, il est un hedge fund, il dirige un fonds spéculatif ou bien c'est un CTA, Commodities and Trading Advisor, il est obligé d'avoir un prospectus, il veut qu'il y ait de l'argent qui vienne. Bon, il a un passé un petit peu, je dirais, chaotique, puisqu'il a fait des années de prison pour escroquerie, mais ceci dit, il est bien obligé de dire quelque chose, de montrer qu'il connaît son sujet, pour rassembler des fonds. Jusqu'ici, ce qu'il nous a dit, non, c'est pas de l'ordre ni de PI ni d'autre chose. Il y a une chose, et ça, il faudrait le dire quand même. Il y a quelque chose de surprenant dans le rapport entre les nombres et le monde tel qu'il est. Et je lisais tout à l'heure dans le train le petit livre de Ivar Ekeland sur le chaos. Lui aussi se pose des questions sur le rapport qui existe parfois entre les nombres, les mathématiques et le monde tel qu'il est. Parfois ça ne marche pas du tout. Et vous le savez bien, dès qu'on a commencé à essayer de faire des mathématiques, on nous dit une rencontre extraordinaire entre les mathématiques et le monde. Non, dès qu'on essaie de mesurer la diagonale d'un carré par rapport à son côté, on n'y arrive pas. Dès qu'on essaie de mesurer la circonférence ou la surface d'un cercle avec par rapport à son rayon, on n'y arrive pas non plus. On a des nombres avec un nombre infini de décimales. Mais parfois, on touche quelque chose. Et à l'intérieur même du monde des nombres, il y a des rapports curieux. Il y a des formules comme -1 est égal à E exposant pi, I qui est la racine imaginaire de -1. Il y a le nombre d'or dont les puissances sont tout à fait extraordinaires. Il y a le fait que si j'ai bon souvenir, 1 sur phi est égal à phi -1 et des choses de cette ordre-là. Il y a des suites de nombres comme les chiffres de Fibonacci, etc. Et là, il faut dire une chose, c'est Monsieur Turing. Monsieur Turing, on a fait un film récemment sur lui, c'est donc un des inventeurs de l'ordinateur. Avant ça, il avait été une personne qui avait craqué les codes, comme on dit, les codes de l'amirauté allemande. Il avait joué un rôle donc assez déterminant dans la victoire des Alliés.
Machine Enigma.
Voilà, machine Enigma. Ce monsieur qui était donc convaincu qu'il y avait, je dirais, un rapport entre les mathématiques et le monde qui était un rapport de convergence, mais il était, je dirais, dans une perspective assez aristotélicienne, c'est-à-dire que les nombres ne représentent pas une vérité absolue, ce sont des outils que nous avons inventés, et les mathématiques aussi, pour essayer de comprendre le monde. Mais il avait été vraiment perturbé à la fin de sa vie de retrouver que des nombres en tant que tels, comme ce pi, comme ce chiffre de qu'on appelle phi, qui est donc le nombre d'or, qu'on le retrouve dans la nature à certains endroits, comme par exemple dans les graines du tournesol, la manière dont les branches poussent sur les arbres, etc. Et ça l'avait inquiété, il en a parlé à des gens autour de lui.
Ivar Ekeland, est-ce que les mathématiques se retrouvent dans la réalité de cette façon, et pourquoi pas dans la réalité économique, puisque c'est quand même le sujet de notre débat d'aujourd'hui?
Bien, bon, merci de citer mon livre. Ça reste un très grand mystère depuis Galilée que les mathématiques aient quelque chose à dire sur la réalité physique. Hein, Galilée disait la nature parle un langage mathématique, c'est vrai, et on a des théories mathématiques qui rendent compte de certaines constantes physiques avec une précision de 12 décimales. Pourquoi? On ne sait pas, mais c'est comme ça. Bien. ça ne veut pas dire qu'on peut tout prévoir. Déjà, il y a des limites qui sont des limites de complexité, des choses de ce genre, mais avec de gros calculateurs. On peut dire des choses. L'être humain lui-même, est-ce que, quand on passe maintenant à la biologie et à l'être humain, bon, on peut dire certaines choses. Pas au niveau macroéconomique. Hein. Ça, on ne comprend pas vraiment ce qu'on appelle la macroéconomie, les gros phénomènes. On comprend, on peut vous dire des choses absolument extraordinaires sur la microéconomie. C'est-à-dire, je peux vous expliquer comment les gens se comportent vis-à-vis de l'assurance automobile. Ça, on sait parfaitement bien, on comprend.
On peut modéliser et prévoir.
Mais c'est un petit problème. Hein. Ça ne vous renseignera pas sur le chômage ou sur des choses comme ça. Là, c'est très utile et les assureurs s'en servent. Moi, personnellement, je pense que on ne va pas loin parce qu'on n'a pas un bon modèle de l'être humain. C'est-à-dire, on est dans la théorie économique actuelle, on pense que les êtres humains sont des gens qui cherchent à optimiser et à maximiser quelque chose, et que la société est un agrégat d'individus qui sont liés par des contrats. Je pense qu'on perd une dimension considérable de l'être humain. Je ne pense pas, personnellement, qu'on est tout le temps en train de chercher à maximiser quelque chose. Je pense que quand on voit d'autres sociétés que la nôtre, des sociétés primitives ou même d'autres sociétés, l'anthropologue a des choses à nous dire sur ce que font les gens. Ils n'ont pas toujours été comme ça. Ils ne sont pas. Et je pense qu'on est beaucoup plus cadré par la société qui existe, par ce qu'on nous a appris, par notre éducation, que par des soucis constants d'intérêt. Et ça, je pense qu'on n'a pas de modèle pour ça.
France Culture, Sciences Publiques. Michel Albergonti.
L'économie est-elle régie par les mathématiques? C'est le sujet de notre débat d'aujourd'hui avec Martin Armstrong, analyste financier, président de Princeton Economics International, qui a été avec nous pendant le début de l'émission, mais malheureusement aujourd'hui, à ce moment, la ligne a été coupée avec les États-Unis. Yvan Reclan est mathématicien, économiste et spécialiste des fractales et du chaos, et Paul Jorion, sociologue, spécialiste de la finance. Donc si j'entends bien ce que vous venez de nous dire, Yvan Reclan, c'est la modélisation de l'être humain qui pose un problème et qui, dans un système économique, justement, joue un rôle très important et donc mène à cette difficulté, voire à cette impossibilité. C'est là que j'arrive pas bien à faire la distinction entre une difficulté très importante et puis une impossibilité définitive de comprendre et d'analyser ces mécanismes économiques, Paul Jorion.
Oui, il faut bien dire qu'il y a quand même eu, je dirais, un effort un peu délibéré de faire dérailler une recherche, une réflexion sur l'économie qui avait démarré au XVIIe, XVIIIe siècle, qui a eu son pic, son point culminant au XIXe siècle, qu'on appelait l'économie politique, et puis une tentative de faire autre chose, ce qui n'a pas plu au milieu financier. Ils ont fait pression d'une manière, je dirais, pas nécessairement par la censure, mais en dotant des recherches plutôt que d'autres, en créant un prix Nobel d'économie qui récompense des découvertes, entre guillemets, qui vont plutôt dans un sens que dans un autre, il y a quelque chose qui a disparu. Quand on analysait la manière dont fonctionnait l'économie jusqu'à la fin du 19e siècle, on était dans une perspective qu'on pourrait dire anthropologique. Pourquoi anthropologique? Parce qu'il y avait une réflexion, je dirais, sur ce qui se passe à différents endroits, que tout le monde ne vit pas des systèmes politiques qui sont les mêmes, que l'économie peut être plus ou moins inséré à l'intérieur du système général ou être plus ou moins autonome. Il y a des choses d'ordre tout à fait différent. Mais ce qui était très clair dans le discours de l'économie politique, c'était que ce qui réglait le fonctionnement de l'économie à l'intérieur du système politique, c'était des rapports de force entre des groupes différents. Ces groupes, on les appelait différemment, on les appelait les classes, on les appelait les États, on les appelait les ordres. Quand François Quesnay écrit un des premiers grands livres d'économie, le tableau économique de la France, j'ai bon souvenir, c'est en 1756, il analyse la manière dont le système économique français fonctionne comme des rapports entre deux classes, la classe qu'il appelle laborieuse et la classe oisive, ce qu'on appellerait les capitalistes d'un côté et les salariés de l'autre. Cette dimension-là, le rapport de force a tout à fait disparu, et à mon sens, et c'est un petit peu le message de mon livre sur Keynes, si on le réintroduisait dans l'analyse, on arrivera à des modèles beaucoup plus, je dirais, réalistes dans la manière dont les choses fonctionnent, que cet homme rationnel qui utilise des ressources rares pour utiliser son utilité personnelle dans telle ou telle dans l'allocation de ressources, etc. On a décollé de la réalité. La science économique a décollé de la réalité, il faut bien le dire.
Alors, il y a quand même un phénomène aussi dont on n'a pas parlé, Ivar Reckland, je vais vous donner la parole tout de suite, c'est le fait que la finance se mathématise de plus en plus. De plus en plus de systèmes, justement, échappent à ce facteur humain dont on a parlé depuis le début de l'émission et qui est le perturbateur de toute prévision possible. Les systèmes financiers communiquent entre eux de façon purement électronique et informatique, avec une intervention humaine qui se réduit de plus en plus. Est-ce que ce phénomène-là va conduire à, finalement, peut-être à terme, un système dans lequel le facteur humain sera beaucoup plus réduit et donc à la possibilité de mieux prévoir les choses, Ivar Reckland?
Je reviens un peu sur la première question. Vous me dites, est-ce que on parlait de la question, est-ce que l'économie est régie par les mathématiques? Bon, évidemment non, hein, l'économie est régie par les hommes, hein, c'est-à-dire on est, quand on dit ce genre de choses, l'économie est-elle régie par les mathématiques, on rentre dans une sorte de discours, le fameux discours de Madame Thatcher, there is no alternative, il n'y a pas moyen de faire autrement, l'économie a ses propres règles, et puis...
Donc on obéit à l'économie.
On obéit à l'économie, ouais. Et puis il ne faut pas taxer les riches, parce que si on taxe les riches, finalement les lois de l'économie font que ça nuira aux pauvres, etc. Et il est très difficile dans ce discours de distinguer ce qui provient du monde académique de ce qui provient du monde des gens auxquels ça bénéficie. Hein. Il faut quand même voir que les économistes, notamment aux États-Unis, sont dans les business schools, et que vous ne ferez pas une grande carrière en économie si vous déclarez marxiste, vous ne le ferez pas. Donc, quoi qu'on pense de ça, quand on dit l'économie est régie par les maths, c'est vraiment nier la liberté de l'être humain, c'est déresponsabiliser les politiques, et c'est le discours dominant, mais je ne pense pas que ce soit vrai, purement et simplement. Alors maintenant, le cas de la finance, effectivement, il y a beaucoup de maths en finance, mais les mécanismes financiers ne sont pas si compliqués que ça. Hein. Je veux dire, les mécanismes financiers ne sont pas si compliqués que ça. Si vous voulez.
Quand on regarde les subprimes, par exemple, c'était un mécanisme financier qui a fait partie de ces innovations financières qui avait pour but de rapporter beaucoup d'argent aux banques en particulier. On voit que c'est un système quand même assez mathématique. On voit que aujourd'hui les plus grands, les premiers des promotions de Polytechnique ou d'autres écoles sont directement aspirés par la finance pour des raisons justement de création de ces systèmes assez sophistiqués et basés essentiellement sur les maths, hein, plus que sur la sociologie.
Ah, excusez-moi, ils sont aspirés par ça parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent.
Oui.
Ah oui, d'accord. Donc, je veux dire, c'est pas l'amour de la science et des mathématiques qui les attire. Hein. Ils sont là
La raison pour laquelle ils sont embauchés, c'est justement pour créer des systèmes de ce type fondés sur leurs aptitudes en mathématiques en particulier, j'imagine.
Oui, il y a des... Mais, bien sûr, il y a des... Bon, ça ne réclame pas un niveau de mathématiques extraordinaire. Hein. C'est pas... Sur le mécanisme des subprimes en tant que tel, ce n'était pas... On prête le problème... L'idée des subprimes, c'était une idée assez simple, hein, c'est-à-dire on vend une maison à quelqu'un, il n'a pas... La banque vend une maison à quelqu'un, elle prend une hypothèque, et l'hypothèque... Elle la refile à quelqu'un d'autre. Donc la banque se dégage de sa responsabilité. Il y a quelqu'un qui a acheté le prêt. Donc si le type ne peut plus payer, c'est le détenteur du subprime qui va payer. Alors on habille ça. On habille ça, mais l'idée, on habille ça, mais je veux dire, ce n'est pas le mathématicien qui est responsable. Hein. C'est vous avez des idées simples qui sont habillées d'algorithmes mathématiques.
Paul Jorion.
Oui, j'ai un petit peu la possibilité de parler des subprimes de l'intérieur, puisque j'ai été là de 97 à l'explosion en 2007. Y a plusieurs éléments. Un des éléments, c'est d'abord, effectivement, on avait dans les équipes dans lesquelles j'ai travaillé, il y avait des docteurs en physique, des docteurs en mathématiques, des gens qui venaient, qu'on les appelait rocket scientists, des scientifiques des roquettes. Et effectivement, moi, j'ai travaillé une fois avec quelqu'un qui venait de la NASA. Ce sont des gens qui connaissent bien les méthodes. Le problème, c'est de savoir si ces méthodes mathématiques très compliquées, si elles décrivent la réalité dont on parle. Or, il y a des choses élémentaires qui ne marchent pas. J'ai parlé tout à l'heure de physique qualitative. Eh bien, les modèles qu'on utilisait pour la gestion du risque, par exemple, sur les subprimes, ils étaient d'excellente qualité, mais il y avait des choses qu'on n'avait pas introduites. De la même manière que la valve n'apparaissait pas dans le modèle dynamique de la machine à vapeur, de la même manière, on ne pensait pas qu'une bulle pouvait s'arrêter, et par conséquent, le risque diminuait effectivement, et c'était observé dans les systèmes. Ce qu'on n'avait pas, c'était, il n'y avait pas la possibilité de voir un renversement de tendance. Il y avait un autre élément, et ça qui n'a rien à voir avec les mathématiques, c'est le fait que le calcul qui était fait, des taux qu'on exigeait des gens, c'était pas mal fait du tout, parce qu'il y avait des primes de risque à l'intérieur de ça. Ça s'appelait risk-based pricing, et je fais partie des gens qui ont mis un petit peu ça au point, mais ce qu'il y avait, c'est que du point de vue comptable, les réserves qui étaient constituées par ces primes de crédit qui étaient demandées aux gens, qui étaient exigées des gens qui représentaient un danger pour le marché, ils étaient comptabilisés en profit pour la compagnie et pas en réserve. Si on les avait mises en réserve, le problème n'aurait pas été là du tout. Maintenant, il faudrait dire aussi un mot du high frequency trading, que le problème n'est pas tellement des mathématiques qui sont là, mais la différence essentielle avec ce trading à haute fréquence qui fait de 2000 à 6000 opérations par seconde, ce qui lui permet d'être différent d'un être humain, c'est d'une part la vitesse, puisqu'on peut avoir vraiment très très vite, mais c'est surtout qu'il annule 95 à 99% des opérations qu'il fait. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? On dit parfois oui, c'est pour dérouter les autres, c'est pas du tout ça. Ces systèmes de high frequency trading, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une cartographie de l'ensemble du marché. Ils lancent des ordres à peu près tous les niveaux et puis ils les annulent si ça ne leur convient pas. Mais du coup, ils ont une représentation. C'est leur connaissance qui est bien meilleure que celle d'un être humain. Autrefois, à la corbeille, vous saviez ce que vos clients avaient demandé et vous voyez ce que les autres disaient, mais vous n'aviez pas une connaissance totale du système.
Donc là, vous allez un peu dans le sens, justement, de cette mathématisation. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, le système, lui, il connaît le marché grâce à ces mécanismes-là.
Parce qu'il peut annuler la quasi-totalité de ses opérations.
Alors qu'un être humain ne peut pas accéder à la même connaissance du marché pour
mais
des
pourquoi
raisons.
Mais pourquoi? Parce qu'autrefois, à la corbeille, quand on voulait annuler une opération, on demandait à un coureur. Un coureur, c'était un jeune homme ou une jeune fille qui courait d'un desk à l'autre pour dire on annule l'opération. S'il fallait annuler, comme les ordinateurs le font maintenant, 95 à 99% des opérations, on ne pourrait pas faire fonctionner une bourse avec des êtres humains. Mais c'est un aspect purement technique. C'est purement technique, cela.
Yves Arecland.
Oui, je voulais reparler aussi des subprimes. Je me rappelle tout à fait au début, ces affaires de subprimes, c'est-à-dire c'était les prêts hypothécaires, on avait des systèmes, on devait demander aux mathématiciens de faire des systèmes qui marchaient très bien si tout était comme avant. Et je me rappelle, à l'époque, j'avais regardé ça, et j'avais posé la question, mais si tout le système s'effondre d'un coup, qu'est-ce qui se passe ? En d'autres termes, les systèmes qu'on avait, bon, bah, si le marché baissait en Californie, il remontait en Pennsylvanie, c'est ce qu'on pensait. Mais si tout tombe d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Et la réponse qui m'avait été faite, pas par les mathématiciens à l'époque, mais par les financiers, bah, écoutez, si tout le système s'effondre, on aura bien assez d'autres problèmes, et ce problème-là, il passera à l'as parce qu'on aura d'autres problèmes à gérer. Donc, il y a quand même des décisions financières qui ont été prises au plus haut niveau. C'est-à-dire, il y a aussi une tendance. Quand ça rapporte de l'argent, on continue. Et l'idée que ça va se casser la gueule un jour, ça ne vient à l'idée.
Mais ça, c'est
de
ça qui est intéressant. Est-ce que ça, c'est pas mathématisable, ce comportement finalement?
Ah oui, c'est mathématisable, ça avait été dit.
Parce que là, vous décrivez quelque chose qui peut se reproduire dans l'histoire.
Ah, qui peut se reproduire, bien sûr.
Paul Jorion, en quelques mots, malheureusement, on atteint peu la fin de l'émission.
Mais parmi les facteurs de risque principaux qui étaient utilisés pour le calcul des taux qu'on a demandé à des gens qui avaient des subprimes, il y avait ce qu'on appelle le FICO score. Le FICO score, en deux mots, c'est un système de notation attribué aux ménages, comme on le fait pour les entreprises, en disant il y a un risque de crédit d'autant, ou pour les États. Et on attribuait à chacun des ménages une notation en fonction de ce qu'on imaginait être la motivation principale, c'est-à-dire le fait que psychologiquement, vous êtes un bon rembourseur ou un mauvais rembourseur. Ce qui n'existait pas du tout, c'était une perspective où, effectivement, une économie pouvait s'effondrer, et à ce moment-là, c'était pas une question de caractère personnel ou de personnalité forte qui allait faire qu'un système s'effondre. Mais ça, c'est, je dirais, c'est un peu le rêve américain, et c'est ce rêve de l'individu qui est maître de lui-même, qui est absolument rationnel, et ça, c'est une erreur, évidemment, fondamentale.
Il va réclamer, malheureusement, on n'a plus de temps, mais
juste un mot. Je vais dire un mot de l'économie. Il y a quelque chose de bien à l'économie. Ce que nous a appris ces dernières années, c'est on a un vrai problème en finance, c'est le problème de la responsabilité limitée. Si le banquier perd votre argent, c'est votre argent. Et ça ne va pas l'inciter à éviter les risques.
Alors voilà, une sage conclusion. On suivra évidemment la suite de ce que Martin Armstrong a annoncé. Est-ce qu'il... prévoit se produira, bien il faudra attendre encore, semble-t-il, au-delà du 1er octobre pour avoir une idée plus précise. Merci à Martin Armstrong, donc, qui était avec nous en début d'émission, Ivar Eklund, Paul Jorion, d'avoir participé à ce débat. Merci à Xavier Combes pour sa tentative de traduction simultanée qui a malheureusement été un petit peu écourtée. Sur le site de Sciences Publiques, vous trouverez deux vidéos que nous avons réalisées à partir de l'interview de Martin Armstrong lors de son passage à Paris le 13 septembre dernier. Vous pourrez également trouver des références des ouvrages que j'ai cités au cours de cette émission, une émission que vous pouvez, comme toutes celles de Culture Science, réécouter pendant 1000 jours et podcaster pendant 1 an, sans oublier, bien entendu, de nous faire part de vos réactions et commentaires. La semaine prochaine, vendredi 9 octobre, Sciences Publiques vous proposera son émission mensuelle révisée en partenariat avec Science et Vie. Je n'ai pas le temps de détailler le sujet, mais ce sera le caractère quantique de la pensée humaine. Donc, Ivan Eklund aurait pu rester pour revenir la semaine prochaine. Que change cette analogie dans notre compréhension de notre propre pensée? Nous en débattrons avec Michel Bitbol, Ariane Lambert-Moulianski, Alexandre Pouget et Mathilde Fontaine. Sciences Publiques, Dany Journeau, Alexandre Dang, Marie Dalquier, Michel Alberganti. Nous vous laissons en compagnie des Bonnes Feuilles. Merci à tous et excellent après-midi sur France Culture.